Pulsan. L'émission d'ASAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec la Société d'Astronomie de Nantes, l'émission mensuelle de l'ASAN. La découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bienvenue pour l'émission mensuelle Pulsan, en direct d'Alternante, 98.1 FM à Nantes et 91 à Trignac. Ce soir, nous parlerons de l'avenir de l'astronomie d'amateurs et professionnels avec un débat petit-déjeuner enregistré lors du 4e congrès européen d'astronomie organisé par la SAN, qui s'est déroulé le 8 et 9 avril. Débat avec notamment Agnès Acker et Jean-François Gauthier. Nous retrouverons aussi nos rubriques habituelles, le ciel du mois et les actualités astronomiques. Mais tout de suite, retrouvons le ciel du mois avec Régis Larcher, qui a une grande première, va faire sa première à la radio. Alors Régis, quelles sont les nouvelles du ciel ?
Eh bien ce mois-ci, nous sommes dans une configuration un petit peu exceptionnelle, puisqu'en effet, toutes les planètes, les cinq planètes que l'on peut voir à l'œil nu, sont en conjonction, c'est-à-dire sont en rapprochement, aux côtés du Soleil. On les retrouve de part et d'autre de celui-ci. En fait, c'est un alignement qui se reproduit régulièrement et qui ne se reproduira plus avant l'an 2065. On va donc pouvoir, tantôt le soir ou tantôt le matin, observer ces planètes qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et qui sont toutes regroupées dans un champ d'environ 26 degrés. Alors c'est un phénomène qui est invisible dans son ensemble, puisque si bien sûr on met le Soleil au centre du champ de vision, on est en plein jour, donc on ne peut pas voir toutes les planètes en même temps. Alors ça va nous donner des rapprochements qui se passeront soit au crépuscule ou soit à l'aube. À commencer par celui du 5 mai, donc très bientôt, où nous aurons un fin croissant lunaire qui se situera juste à la gauche de Mars, à peu près une demi-heure après le coucher du Soleil, et en regardant dans l'horizon nord-ouest. Et puis ensuite, aux alentours du 10 mai, pour les gens qui ont l'occasion d'aller à Paris, soit pour des raisons professionnelles, soit pour y passer quelques vacances, bien que ce ne soit plus la saison, pour ces gens-là, donc, il ne faut pas louper le coucher du Soleil ce soir du 10 mai, qui va passer juste à l'intérieur de l'arc de triomphe. C'est-à-dire qu'en se plaçant vu du rond-point des Champs-Élysées, on verra le Soleil exactement se coucher entre l'arc de triomphe.
Oui, et rappelons qu'en 1994, il y avait une éclipse de Soleil le 10 mai. Et c'était assez exceptionnel, puisque justement on avait vu l'éclipse au travers de l'arc de triomphe. Et rappelons bien sûr que c'est pratiquement tous les 10 mai que le Soleil se couche à peu près dans cet axe-là.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait ça arrive régulièrement, soit au mois de mai, soit au mois d'août, que cet alignement en fait se retrouve réuni et qu'on peut voir le Soleil se coucher dans cet axe-là. Alors bien évidemment, on n'a pas tous la chance d'aller à Paris et on va pouvoir se rattraper lors du 17 mai, puisqu'on aura également une magnifique conjonction très serrée, c'est-à-dire, je rappelle, un rapprochement apparent de deux planètes dans le ciel, qui se situera à peu près à 6h30 le matin, peu de temps avant le lever du Soleil, dans la direction de l'Est. Et nous verrons donc Vénus et Jupiter qui seront à 15 minutes d'arc seulement l'une de l'autre. Alors 15 minutes d'arc, pour donner un petit peu un ordre d'idée, 15 minutes d'arc, c'est à peu près la moitié du diamètre de la Lune vue à l'œil nu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, quelque chose de vraiment très serré, et je pense qu'avec un télescope, on pourrait les avoir même dans le même champ de vision, avec un grossissement assez important. Il y aura également ce même jour, ce même matin en fait, la planète Saturne qui sera vraiment au ras de l'horizon, et qui va se lever vraiment quelques instants seulement avant le Soleil lui-même, donc très très difficile à voir. L'endroit idéal pour observer cette magnifique conjonction, ce serait bien sûr l'Amérique du Sud.
Et non, c'est du voyage, tes informations, la fois de Paris, alors l'Amérique du Sud.
Voilà, tout le monde ne peut pas aller à Paris ou en Amérique du Sud, mais c'est vrai que selon l'endroit du globe où on se positionne, on a des fenêtres d'observation plus ou moins favorables. Les astres sont plus ou moins bien positionnés par rapport à l'horizon, par rapport, je dirais, à la
position,
à l'endroit où on se trouve. Oui, à l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire en fait à la... je cherche la latitude et la longitude, en fait,
voilà, hein, tout simplement. Les coordonnées du lieu.
Voilà, c'est ça.
J'en profite un peu parce que dans le Petit Prince, effectivement, il habite une petite planète et lui, il a la chance, en déplaçant simplement sa chaise, d'aller un peu partout sur sa planète. On aimerait bien faire ça, nous. Hein.
Oui, tout à fait. On aimerait bien pouvoir profiter pleinement de l'endroit le plus approprié pour observer ces phénomènes. Alors, ceci dit, en restant en France, on peut quand même, comme je vous le disais, guetter au petit matin du 17 mai ce magnifique rapprochement, et puis éventuellement prendre quelques photos avec un simple appareil photo, muni d'un objectif, d'un déclencheur souple, et d'un pied photo, bien sûr, pour éviter de bouger. On prend une pellicule moyenne de l'ordre de 200-400 ASA et on fait une pause de quelques secondes. Et on verra sur la photo les deux points blancs représentant Vénus et Jupiter respectivement. L'intérêt de ce genre de photo est de pouvoir, au fil des mois, se faire un petit catalogue des différents phénomènes observables, en prenant soin, si possible, d'y mettre un premier plan intéressant qui pourra apparaître en ombre chinoise avec des arbres ou des monuments ou toute autre chose digne d'intérêt. Alors pour poursuivre un petit peu ce voyage dans les conjonctions, je conclurai avec un rapprochement qui a lieu le 19 mai, cette fois-ci le soir, entre la planète Mercure, qui est très rarement observée parce qu'elle est souvent très très basse sur l'horizon, noyée dans les lueurs de l'aube ou du crépuscule, et Mercure se trouvera donc à 1 degré seulement de la planète Mars, en direction de l'horizon ouest. Alors c'est un phénomène qui sera peut-être difficile à voir à l'œil nu, parce que les deux étoiles seront, comme je vous le disais, très, très faibles et noyées dans les lueurs du crépuscule. Mais par contre, à l'aide de jumelles ou d'une petite lunette, on peut balayer l'horizon et essayer de repérer les deux astres. Bonne occasion pour découvrir Mercure. Alors, il y a également un autre phénomène qui va se dérouler en ce début de mois de mai. C'est en fait une, je dirais pas une pluie d'étoiles filantes, mais un essaim d'étoiles filantes, parce que c'est en fait quelque chose d'assez minime. On parle en moyenne de 6 météores par heure, donc ce sont, je le rappelle, des petits grains de poussière, de l'ordre du millimètre ou du micron, le millimètre pour les plus gros, qui, lorsque la Terre, dans son voyage autour du Soleil, croise cette espèce de nuage en suspension, va, je dirais, les percuter, et ces petits météorites vont rentrer dans l'atmosphère à très grande vitesse, vont s'échauffer énormément et vont devenir très brillants. C'est donc le phénomène des étoiles filantes. Alors ça n'a rien à voir avec les Perséides, qui sont très célèbres, celles du mois d'août, et qui comptent quant à elles plus de 70 météores à l'heure. Là, on est juste à 6 météores à l'heure en moyenne.
Ils viennent d'où, alors, comment ça s'appelle ?
Alors, c'est l'essaim des Aquarides. Il faut regarder le matin, un petit peu avant l'aube, dans la direction sud-sud-est, au-dessus de l'horizon, dans la constellation du Verseau.
Voilà. Aquarius.
Aquarius.
Non, c'est ça. Il faut rappeler un peu que les noms des essaims ou des pluies, elles semblent venir d'une partie du ciel, et on leur donne le nom de la constellation des sangliers, donc là, Aquarius.
Hein. Tout à fait. Ça dépend des saisons, en fait. La Terre se dirige au matin, en fait, dans cette direction-là. Je conclurai en vous rappelant que nous allons pouvoir commencer à observer les constellations du ciel d'été, c'est-à-dire qu'au matin, même à partir de minuit, je dirais en deuxième partie de nuit, on voit donc les trois principales étoiles des constellations du ciel d'été, ce qu'on appelle le triangle d'été. Ces étoiles qui sont Vega, donc de la constellation de la Lyre, Altaïr, de la constellation de l'Aigle, et Deneb, de la constellation du Cygne. Ces étoiles qui vont donc nous accompagner tout l'été et nous faire de magnifiques points de repère pour créer des alignements et trouver d'autres constellations plus faibles. Voilà.
Merci beaucoup, Régis. Je pense que les gens ont tout intérêt d'aller jeter un coup d'œil dans le ciel.
Et faire des photos.
Et faire des photos, en plus, faut pas oublier. Un petit rappel aussi, il faut savoir que l'événement important, c'est vraiment la conjonction, malgré qu'elle soit pas très bien visible de chez nous, la conjonction des cinq planètes principales. Pourquoi on les appelle principales? Parce que c'est les seules qui sont visibles à l'œil nu. Et dans l'Antiquité, c'était les cinq premières, ça s'arrête à Saturne. Et en fait, au départ, ils croyaient qu'on avait cinq planètes, et c'est qu'avec l'avènement des télescopes qu'on a pu aller à aller voir les planètes suivantes.
Uranus, Neptune, c'était du plus tard. Ça.
Même Pluton en 1910, pour vous dire que la dernière
était
l'autre très longtemps après.
Oui, et puis il faut même rappeler que Pluton a perdu récemment son statut de planète, la pauvre Pluton qui est en fait...
Non, il l'a récupéré quand même.
L'a récupéré ?
Il y a un débat au niveau Il y a eu un débat comme quoi, en fait Pluton est une petite planète.
C'est
plutôt un gros caillou qui a été capturé, mais en fait, elle a gardé son statut de planète, je crois.
Voilà, bien.
Donc, tout de suite, nous allons retrouver notre débat petit déjeuner. Vous allez comprendre ce que c'est tout de suite. Avec notamment Daniel Warning qui va nous faire une présentation du congrès qui s'est déroulé le 8 et 9 avril et du débat petit déjeuner.
Merci Thierry. Effectivement, je vais un petit peu rappeler ce fameux congrès dont nous avons parlé lors d'une précédente émission. Ce congrès qui s'appelle les rencontres européennes de l'astronomie d'amateurs et des sociétés d'astronomie ou encore journée de Nantes puisque la ville de Nantes est à l'honneur, à Cité des Étoiles, donc tous les 3 ans. Ce congrès est né en 1991, nous l'avions lancé pour fêter un peu les 20 ans de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes.
Dont c'est les 30 ans l'année prochaine.
Et dont nous célébrerons les 30 ans tout à fait en 2001. Donc premier congrès, première rencontre de l'astronomie amateur européenne, je précise bien, en 1991, et d'emblée, ça a eu un succès, je dirais presque phénoménal, puisque nous avions réuni pratiquement 200 astronomes amateurs à Nantes à l'occasion de ces journées, et ça n'a pas, ce succès n'a pas été démenti depuis, puisque pour les rencontres de 94, 97 et les récentes rencontres qui se sont déroulées le 8 et 9 avril dernier, nous étions à peu près 185-190, donc c'est tout à fait étonnant. C'est l'une des 3 plus grandes rencontres en France, et la nôtre est au niveau européen, c'est-à-dire que nous réunissons bien sûr une majorité pour l'instant de Français, pourrait-on dire, mais nous avons une bonne partie d'étrangers qui viennent de divers pays d'Europe, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, etc.
Grèce cette année,
voilà. Et qui vont d'ailleurs emporter une médaille de la ville de Nantes pour leur faire honneur, pour s'être dépassé d'aussi loin et avoir aussi parlé d'un astronome français qui avait fondé l'Observatoire de Corfou. La France, toujours le rayonnement, n'est-ce pas, de notre pays, depuis aussi Camille Flammarion, la France est la patrie de l'astronomie amateur. Il ne faut pas oublier que cette grande tradition est née sur notre territoire et c'est quelque chose qui a vraiment fait tache d'huile dans le monde entier. L'astronomie amateur est florissante, on pourrait dire, parmi l'ensemble des sciences amateurs. Alors je reviens un petit peu sur ce congrès. Quel est le but de ce rassemblement? Bien sûr, c'est de faire se rencontrer des astronomes amateurs de toutes, disciplines, spécialités, et aussi de tout niveau. Ça, c'est une tradition nantaise, parce qu'il y a aussi des rencontres spécialisées. Il y a les rencontres de Carcassonne qui portent plutôt sur l'électronique, les détecteurs électroniques. Les rencontres de Nantes sont justement ouvertes à tous et ça en fait d'ailleurs une spécificité. Il y a une autre spécificité, c'est la convivialité, c'est tout l'aspect festif, tout ce côté agréable où astronomie rime avec gastronomie, la seule différence étant la lettre G, la constante de gravitation, rappelons-le. Et ma foi, c'est un véritable succès. Alors donc, échange de connaissances, échange d'expériences. Comment est-ce que l'on fait? C'est à base de communication scientifique, avec donc des exposés oraux et des expositions. Il y a aussi, bien sûr, la rencontre entre les amateurs et les professionnels. Les professionnels, on en invite toujours 2 ou 3 sur chaque congrès, qui se mêlent aux amateurs et qui font de grandes conférences. Alors cette année, nous avions Agnès Acker et puis
Jean-François
Gauthier
et Michel Fauchère.
Michel Fauchère, je cherchais. Et puis bien sûr, n'oublions pas Christophe Sautin, de Nantes.
Le laboratoire de planétologie de Nantes.
Voilà, et je vous les présenterai d'ailleurs un petit peu mieux encore tout à l'heure. Donc je parlais du programme communication scientifique, exposition, stand avec des télescopes, librairies, etc., bourse au matériel, et bien sûr des concours. En fait, un riche programme et des aspects festifs.
Au Régis, il y a eu des prix d'ailleurs au concours.
Oui, tout à fait, j'ai eu la chance de
décrocher
un premier prix en dessin astronomique C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, non pas le prix, mais le dessin astronomique. C'est une, je dirais, une activité que je pratique depuis plusieurs années. Quelque chose de vraiment très 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 bonne école, dans le sens où on n'a pas besoin d'un matériel important, on n'a pas besoin donc d'un budget important. C'est quelque chose qui peut se pratiquer avec un modeste instrument. C'est une grande école de patience, donc ça apprend deux choses. Non seulement que l'on ne peut pas regarder dans un télescope, je dirais, comme une émission de télé, et on ne voit pas forcément tout de suite les merveilles du ciel, ça demande un apprentissage. Ça demande un certain nombre d'heures d'observation attentive et ça nous fait prendre conscience des capacités et des limites de l'instrument. Ça nous fait prendre conscience également, je dirais, des aléas de la météo, de la turbulence, etc. Et à travers le dessin astronomique, on arrive vraiment à s'exprimer dans le sens où, en plus, on revient de cette soirée d'observation avec sous le bras un dessin. Qui est son propre dessin, et ça a une valeur extrêmement, extrêmement forte. C'est quelque chose en plus qui permet d'évoluer constamment, parce que les premiers dessins ne sont pas forcément, j'irais, extraordinaires, mais par la suite, le coup de crayon s'affine en même temps que le coup d'œil, et c'est vraiment quelque chose que j'encourage. J'encourage vraiment cette démarche auprès de tous les astronomes amateurs qui hésitent encore à se lancer.
Daniel.
Non, je disais qu'il faisait bien de rappeler ça, Régis, parce que vraiment, c'est un exemple aussi de technique dont nous parlons à ce congrès, et quelquefois des techniques anciennes qui sont remises à l'honneur. On a parlé il y a quelques congrès de l'argenture des miroirs par voie chimique, à la place d'Almini. Régis vient de parler du dessin, de dessiner ce qu'on voit au lieu de le photographier. Le dessin supérieur à la photo puisqu'on interprète, enfin bref, tout cela on aura l'occasion, je pense, de reparler d'ailleurs, Régis, peut-être de cet aspect-là lors d'une émission future. Je conclurai rapidement sur ce congrès qui est un comité de parrainage prestigieux. Je ne vais pas tous vous les énumérer puisque les plus grands astronomes soutiennent la Société d'Astronomie de Nantes, hein, dont bien sûr Hubert Reeves, mais aussi Agnès Acker, Michel Fauchère en fait partie, il y a Christophe Sautin, il y a
en hébraïque,
Pierre Lina, bref, Jean-Pierre
Laurent Nottel,
voilà.
T'as pas dit par contre le lieu quand même qui était important.
Bien sûr, oui, en effet. Alors ça s'est passé, les trois premiers ont lieu à la Pervenchère, au château de la Pervenchère à Casson. Et cette année, bon, comme la Pervenchère n'était plus disponible, nous sommes non pas rabattus parce qu'on en a été, au contraire, le congrès en a été vraiment amplifié aussi. C'était le château de la Plingotière à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Et c'est juste pour conclure l'occasion de parler aussi un tout petit peu des gens qui nous ont beaucoup aidés sur ce congrès, notamment la municipalité de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Et bien sûr la ville de Nantes aussi, il y a eu la revue La Recherche, il y a des partenaires prestigieux, Ifremer, Air France, il y a aussi des partenaires plus modestes mais qui nous ont beaucoup aidés, la société Médas, l'Optique Chevalier, etc. etc. Enfin, bref, il y a à peu près une vingtaine de partenaires, vous me pardonnerez de ne pas vous les citer tous. Juste un mot encore, il y avait une trentaine de sociétés, de sociétés d'astronomie amateurs représentées. Bref, on ne va pas vous reparler de tous les détails de ce congrès, juste pour vous dire que c'était absolument un moment fabuleux, merveilleux, et on a beaucoup appris, on a beaucoup échangé.
Donc, alors, notamment maintenant, est-ce que tu vas pour nous parler un peu des deux personnes qui vont passer bientôt, c'est-à-dire Agnès Acker et Jean-François Gauthier, rapidement.
Tout à fait, parce qu'on a dans le cadre de ce congrès, il y a une tradition, c'est le dimanche matin, puisque ça se déroule un samedi et un dimanche, hein, c'était le 8 et 9 avril, j'ai oublié de le rappeler. Le dimanche matin 9 avril, aux aurores, hein, on se couche tard, on se lève tôt, on avait le petit déjeuner débat radiophonique avec le partenariat, un partenaire que j'avais oublié, n'est-ce pas, c'est Alternante, qui était venu, Michel Sourget avait amené son matériel, et nous avons, grâce à Alternante, nous avons pu enregistrer ce petit déjeuner débat où nous avons soumis au feu des questions Agnès Acker. Alors Michel Fauchère, il n'était pas présent au petit déjeuner débat, il est venu après pour le grand débat table ronde que nous évoquerons tout à l'heure dans une autre partie de cette émission. Là pour l'instant on va laisser parler d'ailleurs beaucoup nos astronomes invités et notre philosophe historien des sciences qui est Jean-François Gauthier, qui a écrit « L'univers existe-t-il ?». Vous allez voir que ce débat est absolument, déjà c'est une très belle ouverture sur le futur de l'astronomie amateur. Et sur les justement, ça va nous amener à toute l'interaction entre les amateurs et les professionnels.
Juste pour rappeler, pour ceux qui veulent un peu plus de renseignements sur Jean-François Gauthier et Sacker, nous avons des liens vers leur site, une présentation en historique sur le site internet de la SAN,
oui.
www.san-fr.com. Vous verrez notamment la liste des pages notamment qui parlent du congrès.
Mais bien sûr, et là vous aurez tous les détails, hein, tout à fait. Alors je pense qu'on va tout de suite entendre, c'est Michel Sourget qui va ouvrir les questions, par une question sur le temps à Jean-François Gauthier. Nous l'écoutons.
Le temps existe-t-il ?
Le temps est un repère. Pour ce qui concerne les objets scientifiques, on repère le temps au changement d'état des objets. Pour ce qui concerne l'astronomie, l'astronomie, il faut la considérer ici comme une activité humaine. L'astronomie a un futur dans la mesure où les astronomes lui en donneront un, c'est-à-dire que le futur, pour ce qui les concerne, c'est l'ensemble de leurs actes, l'ensemble de leur manière d'agir. Et c'est parce qu'ils en veulent un qu'ils en construiront un. S'ils ne construisent rien, il ne se passera rien. Là, je crois qu'il faut que ce soit référé directement aux hommes et aux institutions qui s'en occupent, tant dans l'astronomie d'amateur, c'est-à-dire les sociétés d'astronomie, les sociétés scientifiques d'amateurs, que pour les institutions scientifiques proprement dites, pour ce qui concerne les professionnels.
Là, il faut... Jean-François Gauthier, on le voit, est pour un futur actif, un avenir actif dans lequel l'homme est acteur de son avenir et c'est lui qui décide de l'avenir des sciences. Et en fonction de quels critères, de quels repères doit-il décider, on ne peut bien entendu que s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà et on doit tenir compte des moyens techniques à notre disposition qui peuvent d'ailleurs évoluer. Pour autant, le futur est-il prévisible et si oui, ne peut-il être décidé qu'en fonction du présent ? En d'autres termes, le futur est-il déjà contenu dans le présent ? Écoutons la réponse, encore une fois, de Jean-François Gauthier.
L'astronomie amateur, notamment avec la caméra CCD, était strictement imprévisible. Un astronome professionnel me disait hier qu'un club d'astronomes amateurs aujourd'hui, avec un équipement qui n'est pas inabordable en matière de coût, a la même imagerie à disposition que ce que les professionnels avaient au Mont Wilson il y a 25 ans. Alors, la difficulté pour essayer de dessiner quelques pistes pour l'astronomie d'amateur, c'est que si à une génération près, on dispose à peu près des mêmes instruments ou des mêmes imageries que celles des professionnels, il faut quand même savoir aussi ce qu'on va en faire. C'est-à-dire, à quoi ça sert de voir aussi bien que les professionnels, si on ne fait pas mieux ni autre chose qu'eux.
Bon, ben là, c'est clair. Il y a dans l'avenir de la science, dans sa construction même, un facteur humain qui est imprévisible et qui s'apparente à un acte de création, exactement comme dans le domaine de la création artistique. Dans cette acception, la théorie de Newton était aussi imprévisible, on pourrait dire, que la musique de Chopin ou de Debussy, bien que toute création s'appuie sur ce qui précède. Mais elle demeure fondamentalement novatrice et surprenante dans la vision radicalement différente qu'elle propose, qu'elle amène. Et je retiens aussi que les astronomes amateurs doivent avoir leur place, leur part dans cette création, mais nous en reparlerons dans une autre partie de cette émission. Revenons à l'avenir de l'astronomie professionnelle. Toute la difficulté de tracer cet avenir, et c'est valable pour l'ensemble de la recherche scientifique, c'est de trouver un équilibre entre une démarche volontariste, qui consiste à effectuer un choix dans les sujets de recherche et à concentrer ainsi les moyens techniques et financiers, mais aussi les efforts intellectuels sur les domaines qui semblent prometteurs, par exemple, tout en ménageant cette part d'imprévisible et la liberté qui est nécessaire à l'éclosion du génie qui, par définition, ne se commande pas. Alors comment créer les conditions les plus favorables à la création scientifique ? Comment les acteurs qui sont inclus dans le présent peuvent-ils, à partir de ce présent, gérer un futur sans forcément l'appauvrir ? Écoutons la suite du débat avec Agnès Acker, Michel Sourget, moi-même, c'est-à-dire Daniel Werling, et Jean-François Gauthier.
Alors, pour l'avenir de la recherche, pour moi, tout ce que je peux en dire, c'est que, malheureusement, je dirais que la deuxième piste que Daniel vient de proposer, à savoir
donc mettre à disposition de l'astrophysique professionnelle, dont je parle de l'astrophysique professionnelle que je connais mieux, mettre à disposition donc des chercheurs des moyens techniques de pointe et laisser venir, c'est-à-dire s'attendre à des merveilleuses surprises. Malheureusement, ça, c'est pas la voie qui est choisie. Pourquoi ? Pour des raisons économiques, tout simplement. Il est beaucoup plus facile de construire un budget de la recherche en se donnant des objectifs et limités, et en construisant une instrumentation en fonction de ces objectifs limités, quitte à sacrifier d'autres organisations, d'autres structures. Alors je prends l'exemple justement de ce qui se fait en ce moment dans l'astronomie, c'est qu'on a choisi d'essayer de répondre à des questions clés qui sont, il y en a plusieurs, hein, mais mettons celles qui sont émergentes, c'est tout ce qui concerne la formation, les conditions de formation des objets de façon générale. Alors, il faut dire que les objets se forment tous dans des endroits denses, donc opaques. Ça veut dire difficile à voir. Donc, ça veut dire tout de suite, il faut développer l'astronomie infrarouge. Parce que l'infrarouge, ça veut dire, d'une part, la signature des poussières, dans lesquelles se forment justement les étoiles. Et donc, pour mieux comprendre la formation des étoiles et donc tous ces objets jeunes, y compris la formation des planètes, donc quelque part savoir un peu répondre à cette éternelle question, d'où venons-nous, nous étant les habitants de la planète Terre au point de vue matériel, eh bien tout ceci, ça demande de mieux connaître l'infrarouge et tout ce qui se passe dans les zones opaques de notre galaxie et des autres galaxies d'ailleurs. Et la deuxième question, qui est beaucoup plus compliquée, c'est comment se sont formées les galaxies. Parce que tout le monde maintenant est d'accord sur le modèle évolutif de l'univers qu'on appelle le modèle du Big Bang, qui veut dire que l'univers, dans un passé qu'on place soit à 10, soit à 20 milliards d'années, eh bien l'univers était donc plus concentré, donc plus chaud. C'est tout ce qu'on peut dire si on extrapole certaines choses et si on veut essayer de comprendre certaines constatations. Par exemple, l'hydrogène, il est absolument partout. Il y a de l'hydrogène partout. Alors pourquoi ? Donc, et on ne comprend que si on admet qu'il a une origine globale de l'univers. Et donc ça, c'est cohérent avec ce modèle d'un univers évolutif qui est en expansion, donc qui se refroidit. Et donc ça va bien, mais cet univers évolutif, on le calcule parce qu'on ne peut pas le voir, jusqu'à ce que l'univers ait 3000 degrés dans son ensemble. Avant, quand l'univers est plus chaud, l'hydrogène, donc, on comprend dans ce modèle qu'il est, donc c'est une cristallisation finalement de l'énergie en matière de base qui sont les quarks, mais on ne pourra jamais l'observer, on ne peut que le calculer. Et donc l'univers, jusqu'à ce qu'il ait 3000 degrés à peu près, était une soupe. Une soupe de quarks, d'électrons, l'antimatière s'est quand même annihilée par rapport à la matière. Et donc tout ceci, les calculs et les modélisations sont cohérentes. Et on arrive donc à cette soupe qui ne laisse pas passer les photons, puisque quand un photon se promène dans un ensemble de protons, d'électrons, le photon il est absorbé et puis il est un autre qui est remis. En tous les cas, l'univers est opaque, donc on ne peut pas le voir. Quand il a 3000 degrés et quand il commence à se refroidir davantage, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? L'électron reste attaché au proton et les atomes se forment. Les atomes, c'est des petites entités entre lesquelles, pouf, les photons peuvent passer. Et donc, c'est à partir de là que l'univers commence à être transparent et qu'on peut l'observer. Et avant, c'est l'univers calculable, mais pas du tout observable. Et donc, ce qu'on a fait, on a observé l'univers le plus ancien, l'univers le plus jeune, le plus reculé que l'on connaisse, c'est avec le satellite COBE, Cosmic Background Observer, qui nous a montré l'image de l'univers quand il avait 3000 degrés. Et on trouve là une peinture, l'ensemble c'est 2,735 degrés. Alors c'est donc très précis. 735, hein, et puis c'est pas 736, c'est 735, c'est très précis. Mais alors, ce qu'on a donc ça, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui concerne l'univers dans son ensemble. Parce qu'une précision comme ça, ça veut dire que c'est un phénomène qui englobe tout l'univers. Mais alors, si on regarde en détail la carte, si maintenant on ne prend pas la valeur globale de cette température, mais en différents endroits de l'univers, on peut trouver des petites variations, mais qui sont de l'ordre de quelques dizaines de millionièmes de degrés. Alors la grande question était, c'était dans les années 90, donc à peu près 10 ans, mais on s'interroge toujours, mais enfin, c'est quand même, on est sûr maintenant, la question était au début, est-ce que c'est du bruit, est-ce que c'est quelque chose d'instrumental, une incertitude des mesures, ben on pense vraiment pas, c'est vraiment une température qui était un petit peu plus grande et un petit peu plus petite dans certains endroits. Donc l'idée, eh bien voilà, on sait voilà comment les galaxies se sont formées. Seulement, quand on compare la distribution de ces inhomogénéités de température, avec la distribution des galaxies, ça ne colle pas du tout. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est un gros, gros, gros problème. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut observer les galaxies les plus jeunes que l'on puisse observer. Alors, vous savez que les galaxies, plus elles sont jeunes, plus elles sont lointaines, et donc plus leur spectre apparaît décalé vers le rouge. Donc, ce fameux redshift. Et on a calculé que ces galaxies, il faudrait que ce soit Z égale 10, donc delta lambda sur lambda, c'est pavé sur ces Doppler physio, autrement on arriverait à des vitesses 10 fois plus grandes que celles de la lumière, mais c'est la formule relativiste, et donc qui colle, c'est des vitesses qui approchent celles de la lumière, mais bon, c'est la vitesse apparente de dilatation de l'espace. Et puis donc, ça, pour observer ces galaxies, ça veut dire quoi? C'est que ceux qui étaient, il y a une raie importante bon, dans la série de l'hydrogène, c'est l'Iman alpha, qui est décalée dans l'infrarouge. Donc on se retrouve dans l'infrarouge. Et donc, infrarouge une fois de plus, pas pour les mêmes raisons, c'est pas l'émission thermique des poussières qui donne l'infrarouge à 2, surtout à 10, etc., microns, mais là, c'est vraiment un décalage de tout le spectre qui nous donne aussi des dizaines de microns jusqu'à des centaines de micromètres. Et donc, on construit des instruments, on a fait le choix, on a opté, on met les ressources de la recherche qui sont en baisse, avec le ministre qui vient de nous quitter, peut-être que ça ira un peu mieux, puisqu'il n'est plus là.
Pour l'engager.
Puisqu'il n'est plus là, mais on n'en sait rien finalement, parce qu'on a un sous-secrétaire d'État à la recherche qui est le dernier de la liste en priorité, vous avez vu? Quand on regarde les priorités de l'importance des ministres, le tout dernier, c'est celui de la recherche. L'enseignement supérieur, on ne sait pas à quelle sauce il sera mangé, on ne sait pas si c'est Jacques Lang qui va nous faire danser, n'est-ce pas? Ou bien...
Samba.
Ah, Samba, c'est bien. Mais c'est pas ce que ça ressemble. Donc voilà.
Un peu de techno des étoiles, non, ce serait bien. Non, je vous remercie Agnès Acker d'avoir parlé de soupe au moment du petit déjeuner. Moi, j'ai peut-être une question qu'on pourrait adresser et à Jean-François Gauthier et à Agnès Acker. Au fond, est-ce que le futur est prévisible? Parce que là, vous nous dites, vous êtes embarqué dans de longues années d'observation, d'études et autres. Mais on n'est pas sûr que finalement, dans quelques années, l'objet qui va importer soit celui-là.
Michel, oui, puis-je compléter ta question? Parce Agnès, tout ce qu'elle a développé, elle a bien souligné l'importance, effectivement, elle a dit, voilà, il y a tel domaine qu'il faudrait développer, et donc ça nous amène à développer l'infrarouge, etc. Donc en fait, elle trace bien l'évolution technique qui doit correspondre, enfin, le développement technique doit suivre un peu ce que l'on veut chercher. Il dépend de cela avant tout. Hein. Et tout à l'heure, elle avait dit, si on laissait le progrès technique se faire de manière débridée, on aurait peut-être d'heureuses surprises. Est-ce que ça, c'est peut-être un peu, je sais pas, ça me paraît un peu contradictoire, mais je pense que moi ce qui me plaît plus, c'est la version, on essaye de définir ce qu'on veut chercher, vers où on va chercher, et ensuite on définit les moyens. Et ce n'est pas seulement parce qu'on a moins de sous qu'avant, je crois que c'est une bonne santé de la recherche que d'essayer de concentrer nos efforts sur ce qui vaut la peine par rapport à ce... Alors, la question de Michel, c'était quel le futur, hein, si on peut le tracer, c'était
ouais,
ça.
Oui, s'il est prévisible.
Il est prévisible.
On va résumer comme ça.
Oui. Dans cette acception.
Bon, c'est plus évidemment aux astronomes professionnels de répondre à cette question. Pour l'observateur extérieur, il y a quand même une caractéristique, c'est que beaucoup de projets, quant à leur réalisation, demandent 10, 12, 15, 20 ans ou 25 ans, c'est-à-dire qu'on travaille à à une génération de distance pour pouvoir disposer de la technique et des appareils d'observation que l'on souhaite. Et travailler à une génération de distance, ça veut dire imposer à la génération d'après l'état de la science de la génération d'avant.
On ne travaille plus à une génération de distance, ça c'est sûr que non. Hein. Par exemple, les projets dont je viens de parler, on a déjà défini la date des lancements. Le NGST, c'est un télescope qui va être dédié à l'infrarouge et qui va s'envoler dans 10 ans, il sera parti. Hein. Et pour ça, les choix sont faits maintenant. Mais Daniel, je suis d'accord qu'en termes de gestion d'entreprise, et en fait, la recherche, c'est une entreprise, c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais ça veut dire qu'on pose des questions, et on essaie d'y répondre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui peuvent se lever. C'est ça que je trouve dommage. Mais on n'en peut rien, c'est qu'on a un budget limité. Il faut faire avec.
Effectivement, mais là, c'est un débat de fond. Ça ne vient pas de la technique. En fait, c'est pas si on laisse la technique évoluer de manière sans contrôle que les nouvelles questions vont peut-être surgir. C'est, effectivement, là, c'est autre chose qu'il faut peut-être développer. Ces nouvelles questions... c'est-à-dire le futur, effectivement, c'est ce que disait Jean-François Gauthier, ne doit pas être entièrement défini par le passé, par ce que l'on connaît en ce moment même. Il faut, et c'est un peu comme la théorie, c'est pareil, on ne bâtit pas de théorie nouvelle en faisant un simple bidouillage mathématique de ce qui existe aujourd'hui. La théorie nouvelle, c'est un acte de création par lequel on se projette d'emblée dans un futur totalement nouveau et inventé, et après on essaie de voir si ça permet de faire coller ensemble des choses que l'on connaît.
Alors s'il s'agit vraiment d'un acte de création, ce que je crois, celui-là est complètement imprévisible. Voilà. C'est-à-dire que Jack Lang ne peut pas engager Michel-Ange au ministère de la Culture en lui disant « tu vas devenir Michel-Ange ».
C'est pas Jack Lang.
Oui. Enfin bon, lui aura un autre. Hein. c'était pareil pour le pape Jules II à l'époque, qu'il ne pouvait pas exiger de Michel-Ange qu'il ait du génie. Michel-Ange avait du génie parce qu'il en a fait, parce qu'il a construit son art à lui. Ce qu'il y a peut-être de dangereux ou de difficile dans la science institutionnelle, c'est qu'elle est souvent psittaciste, c'est-à-dire qu'on ne peut y être admis que si l'on répète le langage de ceux qui admettent vos budgets. Ce qui veut dire que par essence, ce qui va être novateur ne veut pas être compris par l'institution.
Oui, puis je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a, mettons, un danger, surtout pour les jeunes, justement, parce que, par exemple, les sujets de thèse. Les sujets de thèse, ils sont donnés donc aux meilleurs étudiants. Qu'est-ce que c'est un meilleur étudiant? C'est un étudiant qui répond aux critères qui sont fixés par la société dans laquelle nous vivons. C'est pas évident que ce soit des bons critères d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça. Ensuite, donc ces meilleurs étudiants, eh bien, ils ont peut-être, au hasard de lecture ou de réflexion personnelle, eu une idée géniale. Mais il n'est pas question de donner une bourse de thèse à une idée géniale. Il faut que les sujets de thèse, ils sont définis dans le cadre des DEA et avec les instituts de recherche, selon la politique nationale. Ça veut dire que c'est la même chose, c'est le même discours. On ne donnera des allocations de thèse que si ça rentre bien dans ces objectifs prioritaires définis par la politique nationale dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on est dans un circuit pour lequel je crains justement que toute vraie création soit un peu difficile, enfin soit difficile à émerger.
Mais qui les fabrique, ces politiques nationales? Il n'y a pas
Alors,
des experts
il y a des experts, mais c'est vrai, ça c'est une question, mettons, qui pour moi est aussi, et pour chacun d'ailleurs, des astronomes de la base, des travailleurs que nous sommes, est aussi poussiéreuse, c'est-à-dire opaque, il nous faudrait un infrarouge aussi, là, adapté à ce genre de vision. Mais bon, on sait quand même, on connaît à peu près les... On appelle ça des technocrates de façon générale. Mais bon, c'est quand même c'est un groupe de personnes qui d'ailleurs est en général en bonne relation avec le ministre. Et en fait, c'est comme ça, mais je crois que c'est...
Mais c'est pas coupé du monde
de
la recherche.
Non, mais ça fait rien.
Pourriez-vous agir
Tout le monde essaye d'agir. Hein. Et puis on arrive d'ailleurs, faut pas... Quand même, on arrive. Mais mettons, c'est plus difficile. Et c'est pas impossible, mais plus difficile.
Alors voilà, c'était vraiment un débat riche, en tout cas un très bon début de débat, puisque vous allez en entendre la suite tout à l'heure. Alors effectivement, il faut rappeler, il y a eu plusieurs phases qui sont très intéressantes, notamment Agnès Acker a bien montré en quoi les objectifs vont affiner finalement le développement technique dans une direction. Elle a donné l'exemple de l'infrarouge. Et par ailleurs, après, il y a eu tout ce débat sur comment orienter la recherche et comment faire éclore en quelque sorte la création et le génie. Est-ce que ça peut se faire dans un cadre institutionnel? Et je dirais que là, on va avoir effectivement, on a un exemple de la limitation peut-être de la science instituée et contrôlée par l'État, et notamment le problème de l'enseignement supérieur qui ne peut finalement diplômer que des gens qui déjà satisfont à certains critères. Du moins, c'est peut-être une bonne base. Peut-être, comme disait Jean-François Gauthier, Michel-Ange est peut-être passé par l'école classique et a commencé par savoir tenir un pinceau avant de voir éclore son génie. Peut-être que c'est aussi une manière de préparer le futur. Alors c'est l'éternel débat, on ne peut pas réduire les objectifs de la science au simple prolongement du cadre actuel, on est d'accord, mais on ne peut pas non plus faire de la science sans objectif et sans cadre. Donc ça c'est un des points que nous avons vu à propos de l'astronomie professionnelle. Et tout à l'heure, nous verrons justement la différence peut-être avec l'astronomie d'amateur. Et là où l'une des grandes richesses de la science amateur, c'est justement de ne pas être sous l'emprise d'un contrôle, donc d'avoir plus de liberté. Alors quel peut et quel devrait être son rôle, sa place dans la construction du savoir humain à cette science d'amateur? C'est ce que nous examinerons dans la suite de cette émission lorsque nous aborderons la suite de ce fameux débat tout à l'heure.
Sur Alter Nantes, 98.1 FM, 91 Intrignac, en direct avec la Société d'astronomie de Nantes, pour parler notamment de l'avenir pour l'astronomie d'amateur professionnelle, avec un débat qui a été enregistré lors du 4e journée de Nantes. Nous, on va nous parler un peu, Daniel, pour aborder la deuxième partie de ce qu'on a écouté tout à l'heure.
Alors je crois qu'avant cela, on avait les actualités.
Ah, t'es pas bête, heureusement que tu dis le panique que j'ai fait, c'est bien.
Mais bon, non, mais en fait, cela dit, il n'y a pas de problème.
C'est juste après, c'est vrai que je suis un peu... Excusez-moi Stéphane de t'avoir squeezé. Donc nous avons tout de suite les actualités astronomiques avec Stéphane Nougat. Bon alors Stéphane, malgré que t'as failli être coupé au montage, surtout sans direct... À toi, les actualités du...
Eh bien, l'actualité astronomique va nous emmener ce mois-ci vers le Soleil, vers Jupiter et Mars, ainsi qu'aux confins de l'univers. Plusieurs découvertes viennent en effet ce mois-ci compléter et contrecarrer les idées que l'on se faisait sur le cosmos. Tout d'abord, des astronomes viennent d'établir un record quant à la détection d'objets lointains. C'est en effet un quasar situé à 12 milliards d'années-lumière qui vient d'être découvert. Celui-ci présente un décalage vers le rouge de 5,8, ce qui est le chiffre le plus élevé pour un tel objet, pour qui ce chiffre parle. Les scientifiques précisent que la découverte de tels objets est primordiale pour l'un en Argentine, l'autre aux États-Unis. Nommé en l'honneur de Pierre Auger, l'astronome français qui est le premier à mesurer des tempêtes de rayons cosmiques en 1938, chaque observatoire couvrira une superficie de 3000 km² à l'aide de 1600 petits détecteurs fonctionnant de manière autonome. Certains de ces détecteurs pourraient d'ailleurs entrer en service dès l'année prochaine. Il s'agit donc, après la lumière visible, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X et les ondes radio, d'un nouveau champ du possible. Une nouvelle encore plus étonnante vient du télescope spatial. Hubble vient en effet de photographier l'objet le plus éloigné jamais observé. En fait, il est si loin que sa lumière aurait mis 26 milliards d'années à nous parvenir. Chose étonnante pour les astronomes qui estiment l'âge de l'univers entre 12 et 15 milliards d'années. Cet astre atteint ainsi un décalage dans le rouge de 12,5 alors que le précédent record était de 6,68. Les scientifiques se demandent donc ce que peut être cet objet, une galaxie lointaine, une étoile exotique. Pour l'instant, aucune explication valable n'est avancée. La seule chose sûre, ce sont les performances du télescope Hubble, qui vient de fêter ses 10 années de service. C'est donc l'occasion d'un bilan pour ce télescope qui avait démarré plutôt difficilement en 1990. Mais Hubble nous a finalement apporté énormément. Tout d'abord, il a précisé que l'univers était âgé de 12 milliards d'années avec une précision d'à peu près 10%.
Sauf qu'il vient se contredire apparemment, c'est ça?
Avec les 26 milliards, là. Disons que cet objet, d'après ce que moi j'ai pu trouver, pour l'instant, il n'y a pas d'explication.
C'est ça. Ouais.
Ensuite, Hubble a découvert que chacune des galaxies observées présentait un trou noir en son centre. Ces objets sont si denses qu'ils peuvent aspirer une masse équivalente à des milliards d'étoiles en une région à peine plus grande que notre système solaire. Il a également révélé que la formation des planètes était un phénomène courant et propagé l'idée que la Terre n'était peut-être pas le seul havre de vie. Enfin, il a pu repérer des différences significatives dans la formation des galaxies. Certaines restent actives, comme la galaxie de Barnard, et d'autres, comme la Voie lactée, ont formé la plupart de leurs étoiles au cours des premiers milliards d'années de leur existence. Et d'après l'actualité, Hubble est encore loin d'avoir épuisé toutes ses munitions. Les Européens ne sont heureusement pas en reste. Une équipe de chercheurs du CNRS vient tout juste de détecter deux nouvelles étoiles, des naines blanches, dans le halo de notre galaxie, alors qu'une équipe anglo-américaine annonçait une troisième étoile du même type. Quelle est l'importance de ces découvertes? Tout simplement que la présence de ce type d'étoiles pourrait résoudre une partie de l'énigme de la matière noire dans notre galaxie. Le spectre de leur lumière indique en effet une température de 3500 à 4100 degrés Celsius. D'autre part, la partie rouge de leur spectre révèle un âge compris entre 10 et 12 milliards d'années. Ces naines blanches, vieilles et froides, mettent donc en évidence une vieille population stellaire abondante dans le halo galactique qui pourrait constituer une partie de la matière noire, c'est-à-dire 90% de la masse de l'univers. Le télescope infrarouge de l'Agence spatiale européenne vient quant à lui de repérer un système planétaire en formation dans la nébuleuse d'Orion à 1200 années-lumière de la Terre. Ceci est relativement difficile à cause de la forte présence de poussières opaques inhérentes à ce type d'événement. Mais ce qui est le plus remarquable est que ISO a été capable de faire l'analyse chimique de ce disque protoplanétaire, ce qui constitue une première. Il est ainsi constitué de grains de poussière recouverts de glace d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et probablement de méthanol. C'est donc un pas de plus qui est franchi dans la connaissance de ces systèmes protoplanétaires ainsi que dans l'origine de notre propre système solaire. Après ISO, c'est SO qui nous apprend des choses insolites sur le Soleil. Celui-ci, couplé au réseau de surveillance GONG, Global Oscillation Network Group, donc vient d'étudier par l'écoute d'ondes sonores.
Alors, normal pour un gong, quoi.
Pour un gong. Alors écouter des ondes sonores, en fait, il les écoute pas, mais il les analyse. Donc ils viennent d'écouter la tachocline, qui est une région qui abrite la dynamo solaire et qui est générée par les différences de vitesse entre les couches de gaz électrifiés. Les changements dans cette couche présentent étonnamment une brève période de 16 mois. Les astronomes devront maintenant se pencher sur le problème, car on aurait pu s'attendre à des oscillations de 11 ans, comme l'apparition des taches solaires. C'est dans la prévention des tempêtes solaires qu'une météo spatiale va aussi se mettre en place. Une équipe de chercheurs franco-finlandais a développé une technique permettant de prévoir les tempêtes solaires 2 semaines à l'avance.
Pas comme les météos actuels, c'est-à-dire qu'ils arrivent à peine à la journée pour voir la veille pour l'endroit.
Ça dépend de la place. C'est chaotique, ça.
C'est chaotique.
Alors, cette information sera utile pour les entreprises gérant de longues lignes de transport d'électricité, ainsi que pour l'exploitation des satellites. La technique, qui est basée sur l'observation des vents solaires qui s'éloignent de la face cachée du Soleil, sera détaillée début mai dans une revue scientifique anglaise dont j'ai oublié le nom. Quelques nouvelles de Jupiter maintenant et de Galiléo. La sonde américaine vient de nous apporter des informations inédites sur des petits satellites joviens. TB, Amalthée et Métis ont été photographiés par la sonde américaine lors de passages en août, novembre et janvier. Mais l'info jovienne la plus pertinente vient de 3 astronomes de l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris, et de l'Observatoire de Nice. Ils viennent de détecter un décalage entre la théorie et les observations à propos du noyau de Jupiter. Leurs analyses de la planète, basées sur la sismologie comme on le fait pour le Soleil, ont montré un noyau très petit, d'une masse inférieure à la Terre, alors que la théorie prévoyait entre 1 et 12 masses terrestres. Donc il est soit très petit, soit très dilué, c'est-à-dire que la frontière entre le noyau et l'hydrogène n'existe pas vraiment. Les 3 astronomes essaieront donc de renouveler leurs analyses en novembre, d'autant que le CNRS compte débloquer 100 000 francs pour un nouveau prototype de spectromètre. Pour terminer cette actualité, quelques nouvelles du premier congrès d'astrobiologie qui s'est déroulé le mois dernier au centre de recherche de la NASA en Californie. 600 scientifiques ont débattu de questions telles comment la vie est-elle apparue, y a-t-elle évolué, y a-t-il de la vie ailleurs, Europe, le satellite de Jupiter, peut-il accueillir la vie? Mars a également été l'objet d'âpres discussions. Il semblerait que beaucoup de spécialistes sont extrêmement sceptiques quant à la possibilité d'une vie passée sur Mars. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, les canyons observés sur Mars pourraient avoir été creusés par de l'eau souterraine et non en surface. Ce phénomène connu sur Terre provoque des tunnels qui finissent par s'effondrer. De plus, si cette eau était souterraine, elle n'a pas eu besoin d'une température élevée à la surface de Mars, une chaleur souterraine étant suffisante. Enfin, l'atmosphère primitive de Mars aurait été trop mince pour faire monter la température au-delà de moins 43 degrés Celsius. Bref, si ces hypothèses, puisque ce ne sont que des hypothèses, vous paraissent manquer de poésie, vous pouvez toujours vous raccrocher à la découverte de vie dans le cosmos. Le programme SETI, qui veut dire
Search for Extraterrestrial Intelligence.
On est bien les poésies. Hein, ah, donc oui, le programme SETI va en effet...
Vous savez tous, hein.
Ben oui. Ouais. Le programme SETI va en effet s'équiper d'un télescope appelé One Hectare Telescope. C'est en effet sur une surface de 1 hectare que seront installées des centaines, voire des milliers d'antennes radio dédiées à la recherche de messages extraterrestres.
Je retiens que les Américains ont adopté le système métrique.
C'est déjà bien.
Et l'info en plus était sur une chaîne américaine. C'est une chaîne de radio américaine.
Oh là là là.
Eh oui. Première tranche des travaux pour 2002.
Ils ont compris le mot hectare.
D'autant que c'était écrit acheté. Mais pour hectare télescope en fait.
Ah d'accord.
Ouais. Donc là. Voilà. Donc première tranche des travaux pour 2002 et installation complète pour 2005. La recherche commencera par 1000 étoiles proches dans la Voie lactée, puis 100 000 et enfin 1 million. Bref, toute cette actualité nous laisse donc penser que le ciel bouge et nos idées avec.
Ouais, merci. Je retiens que l'univers, en tout cas si ce n'est la Terre, est à la fois plat et rond. Alors s'il y en a un qui comprend ça, enfin on va peut-être comprendre.
Ben, je pense qu'on peut parler de rayon de courbure, en fait le rayon de courbure est presque infini.
Il s'en sort toujours.
Ouais, il se débrouille bien, on l'aura la prochaine émission. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, m'étant lancé un peu trop vite, nous allons retrouver la suite du débat qui a été enregistré dans la dernière journée de Nantes avec Daniel Orlin qui va nous présenter tout ça.
Voilà, et nous avons pour ce débat qui va être fort riche, vous allez le voir, bien sûr Jean-François Gauthier, notre ami philosophe, historien des sciences, Agnès Acker, astrophysicienne, professeur à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, notre ami Michel Sourget d'Alternantes qui était présent, et bien sûr, bon, vous n'entendrez pas encore lors de cette émission Michel Fauchet, vous l'entendrez la prochaine fois. Alors, nous avions longuement débattu dans la première partie de cette émission de justement tout le futur de l'astronomie amateur, un des futurs de l'astronomie. Et nous avions surtout à tout à l'heure parlé de l'astronomie professionnelle. Et nous allons cette fois-ci un peu plus mettre l'accent sur l'astronomie amateur. Amateur étant pris dans son acception la plus noble d'amoureux, bien sûr, de cette science, qui réunit donc des gens passionnés par l'astronomie et où cette activité se développe peut-être davantage que dans la science instituée, dans un champ de liberté. Cette liberté est-elle totale? On va le voir. Et qu'en est-il? Et dans quel cadre cette astronomie peut-elle se développer? Est-ce dans le champ laissé libre par l'astronomie professionnelle, qui est un peu contrainte par ses priorités? L'astronomie d'amateur doit-elle se structurer avec notamment de véritables programmes de recherche? Et cela nous amènera en fin de thème à l'éternel débat. Et nous verrons que l'éternel débat, justement, entre la pour penser le futur, faut-il penser en termes du présent? En tout cas, nous verrons que penser autrement ne nécessite pas forcément de passer par la maîtrise complète de ce qui se fait aujourd'hui. Écoutons justement le débat enregistré. Alors maintenant, l'astronomie amateur, là il y a deux problèmes qui se posent. Il y a les mêmes problèmes d'une part que dans l'astronomie professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif par rapport aux moyens qu'on a, comment est-ce qu'il faut adapter ces moyens aux objectifs, et là je crois que la pression des moyens financiers est aussi importante sinon plus que dans le domaine professionnel. Ça c'est une chose, donc on a les mêmes problèmes. Mais il y a un autre problème qui est plus de fond, c'est que l'astronomie amateur, depuis que les institutions existent, dès lors qu'elles ont existé, et puis par la suite, elles se cantonnent de plus en plus, elles s'est cantonnées du moins, dans des questions un peu subalternes, et plutôt comme un hobby, etc., en laissant aux institutions toute la partie, on pourrait dire, un peu noble de tracer le futur, de parler de théorie, de tout ce qui apparaît un peu comme compliqué. Or, le travail théorique ou le travail d'investigation intellectuelle, il n'est pas forcément plus compliqué que le travail technique. Il est simplement quelquefois autre. Et bon, c'est juste pour dire que ce domaine des amateurs, lui aussi, il doit définir son futur et peut-être en décider plutôt que de laisser aux autres ou à la technique le soin d'en décider. Et nous avons ici beaucoup d'astronomes amateurs. Ils n'ont pas forcément la volonté ou la conscience d'avoir un rôle à jouer dans l'évolution des sciences en général. Et la plupart sont plutôt là par plaisir, le plaisir d'observer, le plaisir aussi de connaître, d'améliorer leurs connaissances. Mais il y a peut-être aussi des questions à se poser sur ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, on a dit que les astronomes amateurs d'aujourd'hui disposaient de moyens aussi importants que les professionnels il y a 25 ans ou 30 ans ou peut-être 50 ans, peu importe, hein, ça dépend de quoi on parle. Hein, oui. Par contre, des fois, on dit aux gens, voyez-vous, ce petit télescope-là que vous offrez à votre filleul, eh bien, c'est une lunette dont Galilée aurait rêvé.
On peut peut-être lancer quelques pistes. Parce que pour l'observation, bon, on parlait au cours de ce congrès d'un défaut souvent des sociétés de scientifiques d'amateurs dans lesquelles on observe pour observer et finalement pas plus. Je crois qu'il y a, une vocation de la société d'amateurs, c'est d'observer pour initier, c'est-à-dire de former un certain public à la découverte de l'objet, et à partir de la découverte de l'objet, effectivement, on peut commencer à penser, c'est-à-dire à élaborer de la vraie science. Mais il y a peut-être des choses que vous pourriez faire en coordonnant vos efforts, parce que les amateurs, vous êtes peut-être mieux placés que les professionnels pour faire des veilles 24 heures sur 24 autour de la planète, et vous pourriez avoir des programmes d'observation, ne serait-ce que du système solaire qui est très délaissé par les professionnels, à condition de coordonner vos efforts. Là, il y a peut-être des programmes communs. Bon, l'expression a été politiquement employée il y a très longtemps, donc elle est démonétisée et désaffectivée maintenant. Vous pourriez avoir des programmes communs d'observation sur telle ou telle planète, ou des choses qui sont à la portée d'observation et où il y a de la connaissance à engranger.
Tout à fait, c'est déjà le cas pour beaucoup de programmes. Hein. Il y a tous les amateurs savent que bon, il y a des réseaux, par exemple sur le Soleil, il y a des associations de variabilistes pour les observations d'étoiles variables qui ont été délaissées. Et alors c'est assez curieux, les variabilistes le savent bien. Les meilleurs variabilistes sont russes, parce qu'il y a eu des problèmes de crédit en Russie, et donc les astronomes de ce pays se sont rabattus sur des petits instruments, et donc ils ont développé cette partie de l'astronomie qui était délaissée par les pays riches qui disposaient de grands instruments et qui préféraient s'intéresser aux objets plus prestigieux. Donc voilà un exemple. Mais bon, les amateurs ont aussi investi le domaine des étoiles doubles, des choses comme ça. Ce qui est plus difficile, hein, ce que Jean-François évoquait, c'est la formation de vrais réseaux qui fonctionnent. Là, c'est une question un peu, je dirais, d'organisation. Alors bien sûr, il y a cette partie d'astronomie amateur, mais je crois qu'elle n'a pas de difficulté à vivre, celle-là. Un peu ce que tu évoquais, c'est un peu l'astronomie d'amateur qui est un peu, sans que ce soit péjoratif, un peu ancillaire, c'est-à-dire un peu la servante de l'astronomie professionnelle, ou qui la complète du moins dans les domaines où elle...
Non, je ne suis pas d'accord du tout, Daniel. C'est pas vrai du tout. Et là, je rejoins complètement ce qu'a dit Jean-François, c'est que nous avons besoin des amateurs. Oui, c'est du tout servante.
C'est dans ce sens-là.
C'est partenaire. Hein, et partenaire. C'est vraiment partenaire. Parce qu'il faut savoir qu'à cause des choix qui sont faits, ils sont pointus, les choix. Et ils sont même pointus dans les morceaux de ciel, comme le disait Jean-François, que nous observons. Nous avons des petits coins du ciel qui ont 5 minutes de diamètre, 5 minutes d'arc de diamètre. Donc tout le reste, on ne le voit pas. Et ça, c'est vraiment tous les professionnels. Et ce ne sont que les amateurs qui peuvent voir s'il y a des nouvelles étoiles, des novées qui apparaissent, s'il y a des comètes qui apparaissent. Ce ne sont que eux qui peuvent le faire. À cause de la politique donc très performante pour les professionnels que l'on met en place, nous n'avons plus de temps de télescope pour suivre une étoile. Ça n'existe plus. Ça veut dire que là, c'est clair, c'est un travail qui ne peut être fait que par les amateurs. Et on sait qu'ils peuvent le faire. Ils ont des moyens techniques très bons. Ils acceptent de se cultiver, mettons, pour interpréter et pas seulement observer. La preuve, tout le grand succès qu'a cet extraordinaire congrès, où je dis encore combien je suis heureuse d'avoir été invitée, de pouvoir y participer, ça montre que les amateurs, ils veulent faire plus que regarder et qu'observer des belles choses. Et enfin, dernier point, c'est que toujours à cause de la politique des professionnels, on ne peut pas tout faire, donc en ce moment, il est très fortement question, et c'est plus que question, on le met en pratique, de fermer les petits télescopes égales les télescopes de la classe de 1 mètre, 2 mètres. Et alors ça, les amateurs doivent se préparer. Il faut préparer des programmes parce que c'est à eux qui auront ces instruments. Et par exemple, le 80 cm observatoire de Haute-Provence, là, c'est sûr que s'il y a des bons programmes, là, il est ouvert. Hein. Il y a des missions qui peuvent être faites. Et c'est sûr et certain. Et c'est regardez le Pic du Midi. C'est un bon exemple. L'Observatoire de Haute-Provence, c'est un autre exemple. Il y a beaucoup d'observatoires comme ça. Au Chili, c'est pareil. Il y a un télescope là-bas qui est au service des amateurs. Donc, il faut construire des programmes.
Mais là, je vois, il y a un S amateur. Je suppose qu'il y a plusieurs catégories d'amateurs. Il y en a qui sont, parce qu'finalement, ils ne sont pas rémunérés par rapport à leurs travaux, mais ils ont...
Moi, je suis amateur.
Oui.
Heureusement, ce serait grave, les professionnels qui ne seraient pas amateurs. Ce serait très grave.
Alors c'est amateur au sens noble. Avec
C'est toujours au sens noble.
Dans le sens de amour.
C'est ça qu'il faut bien se dire.
C'est Bob qui disait, le Hollandais, là, qui taille ses lentilles, qui disait « Je suis un professionnel non rémunéré ».
Mais c'est juste pour apprécier le travail de recherche des amateurs. Comment vous, les scientifiques, hein, vous êtes pas tendres entre vous alors, quand...
Non, parce que je dis bien, il faut des programmes. Et puis ça, je vois là, enfin, j'ai la chance de pouvoir collaborer justement avec un groupe de variabilistes, justement. Et bon, hier soir encore, j'ai montré ce que Hipparcos nous avait donné pour cette étoile comme début de courbe de variation, en disant voilà, on ne peut pas aller au-delà, il faut aller dans cet ordre de grandeur des limites, des précisions que nous devons avoir. Donc, on automatiquement, quand on travaille en collaboration, il faut les mêmes exigences que celles que nous avons. Et bien ça marche très bien, comme le disait Daniel. Mais c'est peut-être pas assez répandu quand même.
Oui, parce que ce qu'évoque Agnès, c'est cette partie de l'astronomie amateur que j'avais appelée un peu activement servante. C'est pas du tout, bien sûr, dans le sens de sous-produit de l'astronomie, c'est simplement comme complément à investir des domaines que l'astronomie professionnelle ne avait non pas délaissé, mais ne pouvait pas prendre en charge.
Oui, mais il y a quand même un point qui me gêne, honnêtement, ouais. Parce que je trouve qu'on n'a pas le droit de demander une collaboration gratuitement. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, je trouve. Parce que je dis dans la même phrase que les professionnels, donc on est payé, c'est notre métier, on en est payé pour faire ce que nous faisons. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ben voilà, messieurs les amateurs, gratis, vous nous faites ça. Il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond.
Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que l'astronomie amateur le fasse dans cet esprit-là. Ce qui est intéressant, c'est d'une part tout amateur, ce qui doit investir des domaines qui l'intéressent déjà, il faut que ce soit intéressant, pas seulement parce que c'est délaissé et qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire. Mais je crois que la notion que développe Agnès, qui est très importante, c'est de travaux de recherche, programmes de recherche. Maintenant, ça c'est une partie d'astronomie amateur qui est très technique et qui est d'ailleurs qui n'a pas trop de mal à vivre parce que ça plaît beaucoup, ça, aux astronomes amateurs, disons chevronnés ou pointus. Ils aiment bien justement aller le plus loin possible et développer la recherche.
Juste, si j'ai bien compris, ouais. Il faudrait d'un côté des professionnels non rémunérés et des amateurs rémunérés pour que ça marche bien.
Oui, je crois. Moi, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire il faut de tout, parce que vous voyez, à mon avis, on ne peut pas exiger de quelqu'un, par exemple ce que je disais avant, moi il me faut une précision telle et telle pour que ce soit vraiment utile. Mais alors la personne en face de moi peut dire, bon bah, oui, je verrai hein, si je veux. Ben, c'est ça la liberté complète des astronomes amateurs. Et c'est ça la richesse. Et puis c'est bien ça qu'on a le droit et même le devoir de préserver. Et donc quelque part, c'est antinomique avec l'idée de programme.
Je crois, pour terminer, pour généraliser, c'est en fait les amateurs doivent simplement définir leur champ d'investigation, de recherche, peu importe ce qui est délaissé ou non, ce qui est ou à la mode, ou c'est ça. Tu parlais de liberté, Agnès. Je pense que c'est là-dessus qu'on va peut-être repartir sur l'idée de définir son futur. Effectivement, on ne le définit bien que si on est libre. Et en fait, l'astronomie amateur, elle fait elle-même les moyens et elle est elle-même sa directrice de son futur. Alors, toujours des réactions dans la salle, fort nombreuses, bien sûr, comme tout à l'heure. Vous pouvez, hein, c'est un vaste débat, parce que là, oui, monsieur, alors prenez le micro qui est là, puisque c'est enregistré, sinon vos paroles éternelles ne seront pas fixées.
Dans un autre domaine, il y a une centaine ou 200 ans, les gens qui s'intéressaient aux objets célestes se disaient, de toute façon, on ne saura jamais de quoi ils sont constitués, puisque on ne peut pas y aller. Et quelqu'un a vu dans la lumière un certain nombre de propriétés qui permettaient de connaître les constituants. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes proches de nous qui nous permettraient, avec une meilleure connaissance de la physique, de trouver un certain nombre de choses?
Dans les pistes, les connaissances de la physique, c'est effectivement, on l'apprend. Mais ça veut dire que pour appliquer ces connaissances, il faut quand même des outils. Et ça, c'est des outils qui sont professionnels. Il faut des spectrographes, autrefois graphes, maintenant des spectromètres, je dirais, qui sont vraiment extrêmement coûteux et qui ne peuvent résulter que, par exemple, d'une collaboration entre pays au niveau international, tellement c'est cher. Donc c'est là un petit peu le... C'est pour ça que je trouve que les amateurs qui acceptent, comme vous le dites, de faire ça, il faudrait pouvoir les emmener au télescope avec les spectros professionnels, les associer à des missions.
C'est pas sur ce... Excusez-moi, c'est plutôt sur le domaine technique. J'ai l'impression que proche de nous, il y a un certain nombre de choses qui sont encore à découvrir. Par exemple, dans le comportement, disons, de la matière ou de la lumière, cette espèce de dualité corpuscule-onde, ça a quelque chose d'assez incompréhensible. Et les choses sont assez proches. Il y a certainement des recherches à mener. Enfin, du point de vue de l'amateur qui ignore certainement un grand nombre de choses dans ce domaine, il me semble qu'on manque de la compréhension qui permettait peut-être, finalement, avec d'autres façons de voir, comme la spectrométrie.
Monsieur semble dire que... Ah oui, tu veux... Je ne sais pas si j'ai bien compris. Monsieur, il demande à l'astronomie professionnelle lui éclaircir un point.
Non, je crois pas. Non, je crois que...
Ou l'astrophysique, ou la physique.
Vous pouvez trouver des choses.
Peut-être qu'au cœur des choses, il y a la réponse à un certain nombre de questions. Je répète le propos du début, il y a 100 ou 200 ans, on se disait, de toute façon, on ne saura jamais de quoi sont faites les étoiles, puisque personne ne pourra y aller. Et subitement, on a vu dans les rayons lumineux un certain nombre de séquences et de raies qui, finalement, ont offert un certain nombre d'explications. J'ai l'impression qu'au sein de la physique, il manque des connaissances, en particulier cette dualité corpuscule-onde. Vraisemblablement, il y a quelque chose à explorer dans ce domaine-là qu'on ne trouve pas dans les programmes de recherche où on a des... Oui. Où on a, finalement, on a l'impression que tout se concentre sur des grands programmes comme l'unification des forces ou des choses comme ça. Et...
Des grandes questions plus que des grands programmes, parce qu'il n'y a pas vraiment de programme là-dessus, hein, je crois pas.
Vous savez, moi je crois que... Je ne sais pas vraiment répondre à votre question. La réponse bête que je pourrais donner, peut-être, c'est que pour essayer de comprendre autre chose que ce qu'on connaît déjà, c'est un peu ça votre question. Il faut déjà parfaitement connaître ce que l'on sait, que l'on connaît déjà. Et ça, c'est un programme démentiel, à mon avis, auquel il faut consacrer 100% de son temps. Donc, être, mettons, rentier ou bien professionnel. Et donc ça, à mon avis, ça fait déjà un travail énorme à surmonter pour arriver au niveau des connaissances qu'on a actuellement, pour arriver à en savoir plus. Et donc, je peux pas répondre mieux que ça.
Effectivement, enfin, Agnès Acker m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Tout bêtement, pour pouvoir avancer, il faut déjà savoir tout ce qui est fait. Et ce n'est pas récent. Hein, Pasteur est arrivé à des conclusions qui étaient préparées depuis 50 ou 60 ans. Et là aussi, le génie de Pasteur, c'était d'avoir une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'était fait, de savoir que telle expérience avait raté à telle époque parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques actuels, enfin de son époque. Il a rajouté la petite chose qui a fait qu'un certain nombre de choses ont tenu. Et ça demande effectivement de consacrer son existence à la connaissance. Et ça ne peut être que le professionnel, parce que l'amateur, il a des besoins, si j'ose dire, alimentaires qui l'obligent à faire autre chose que ce qu'il aime pendant une partie non négligeable de son temps.
Ou c'est l'inverse. T'as le professionnel qui, lui, a des crédits que dans les secteurs qu'on lui impose quelquefois. Et alors que l'amateur, lui, c'est l'inverse, il a toute liberté. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur les amateurs. On pense tous amateurs, pas de moyens. Je vous rappelle quand même qu'au cours de l'histoire, avant que les institutions soient créées, donc jusqu'au XVIIe siècle, pratiquement, et bien au-delà. Les grandes découvertes hein, ont été faites que par des amateurs. Cavendish, chimiste, était amateur. Lavoisier était amateur, était chimiste amateur, puisqu'il était collecteur d'impôts professionnel. Donc en fait, la science a
et
été
construite... Descartes était capitaine professionnel et oui. philosophe et physicien amateur.
Et celui qui a découvert l'étage solaire était apothicaire.
Oui, et puis Roussel, le musicien, était en fait marin. Donc en fait, les amateurs, ce ne sont pas des gens sans moyens. C'était autrefois, ce dont on parle, bien sûr, étaient des hommes riches ou des femmes riches. Mais la richesse ne fait pas tout. Il y avait beaucoup de riches, mais peu de savants parmi les riches. Hein.
Il faut quand même rajouter une chose, tous ces gens-là avaient une fortune qui travaillait souvent indépendamment d'eux.
Tout à fait, donc voilà. L'idée quand même que tout le monde a développée, alors il y avait deux idées là. Bon, est-ce que la recherche doit être menée par des amateurs ou par des professionnels? Là, je crois que la réponse, elle n'est pas l'un ou l'autre. C'est la recherche doit être menée ou le futur ne peut être décidé que par des gens, des hommes, des femmes libres. Alors, libre par rapport à la définition de leurs objectifs de recherche et où la technique doit se plier, en quelque sorte. Voilà, l'idée, un petit peu. Donc, la deuxième question, c'était un point que soulevait monsieur tout à l'heure, beaucoup plus fondamental, c'est que les domaines de connaissance de la physique pure ou de la connaissance pure ne peuvent pas être définis à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il ne faut pas chercher à résoudre la dualité entre corpuscules. Et je croyais que...
Il y a juste peut-être une dernière...
Je vais revenir sur une chose. La définition des objectifs de façon libre, il faut quand même un petit peu s'en méfier, parce que si on dit à quelqu'un, tiens, voilà, X centaines de KF, fais-toi plaisir avec, ça peut ne pas être très productif.
Tout à fait, oui. Mais... Non, mais c'est bien que ni l'argent... ni la technique, l'instrumentation ne suffisent à fabriquer de la science, à construire le savoir, ça c'est clair. Oui, tu souhaitais intervenir, Jean-François, tout à l'heure.
Oui, une petite chose à propos de la réflexion d'Agnès Acker. Je ne crois pas qu'il faille passer par l'apprentissage et la maîtrise complète de tout ce qui se fait aujourd'hui pour arriver à construire autrement. Je crois qu'il suffit de percevoir dans un champ du savoir une contradiction qui pour certaines personnes devient insoutenable, pour qu'à ce moment-là, peut-être les moyens adviennent chez cette personne-là et pas ailleurs, de se mettre à penser autrement, c'est-à-dire à construire autrement les représentations. Hein? Ce qu'on appelle la dualité corpuscule n'est pas une dualité qui serait une propriété de la matière, c'est une dualité de deux approches qui sont superposées. Il y en a une qui est géométrique et l'autre qui est vectorielle. Et c'est parce qu'il y a deux approches superposées qu'il semble y avoir une contradiction. Et une troisième manière ou une autre manière de penser autrement lèvera la contradiction parce que elle ne concédera pas le même phénomène de deux points de vue différents, mais d'un seul. Et ça, ce sera l'acte du créateur de celui qui le fera, mais ça ne peut pas être l'objectif ni d'une institution, ni d'une société d'amateurs, ça c'est certain. Et puisque Daniel me demandait de conclure un peu
si
autour de ça.
Si tu permets, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est ce que tu développais dans ta conférence introductive, effectivement, la formulation de ces deux approches, par exemple onde corpuscule, en tout cas la formulation de quelque chose, les modes de représentation que nous donnons du réel, ce n'est pas la nature des choses. Il ne faut pas confondre onde et corpuscule avec la nature de la lumière. C'est la nature de la lumière.
La lumière n'a pas de nature.
Elle n'a pas de nature.
La lumière, ça n'est personne, on ne peut pas lui serrer la louche.
Et donc, Jean-François, pardon, je t'ai coupé.
Oui, tu me demandais de conclure un peu le débat à propos des sociétés d'amateurs. Je crois que le rôle des sociétés scientifiques d'amateurs en général et des sociétés d'astronomes en particulier est très très important dans un monde qui est de plus en plus configuré par l'imaginaire et par les doctrines. On parle beaucoup de pensée unique, bon c'est quelque chose qui est un peu idiot, il n'y a pas de pensée unique, il y a une manière unique de présenter la diversité, ce qui est un peu différent. Mais pour ce qui concerne le monde contemporain, il est de plus en plus configuré par des doctrines, c'est-à-dire par des manières de percevoir et le champ du politique, et le champ de la science, et le champ de la morale, et le champ du religieux, comme des champs dans lesquels le sens est déjà là. Ce qui est important, je crois, dans ce que peuvent divulguer les sociétés d'amateurs, c'est le souci auprès de chacun de ceux qui viennent travailler dans ces sociétés, c'est le souci de, que pour eux, le sens ne soit jamais déjà là. C'est eux qui le construisent par leur travail d'intellection. Et ça, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Je crois que ça fait partie, l'activité des sociétés de scientifiques d'amateurs et des sociétés d'astronomes amateurs, fait partie des quelques rares voies par lesquelles les plus jeunes générations pourront échapper à une forme de totalitarisme dominant, selon lequel le sens est toujours déjà là. Il faut dire à cela non. Ça n'est jamais vrai. C'est toujours chacun qui, avec sa vie, construit le sens de son existence à lui.
Oui, puis moi, j'adhère à ce que vous venez de dire totalement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, personnellement, je trouve que les planétariums sont tellement importants dans notre société. Et c'est aussi, d'ailleurs, un travail d'amateurs, les planétariums. Pourquoi ? Parce que les amateurs ont une vocation de formation dans la société. C'est-à-dire de formation de l'esprit. Parce que nous vivons quand même dans une ère d'obscurantisme, c'est ce que vous venez de dire, quand on voit les horoscopes, quand on voit, c'est un exemple bon, le qui vient immédiatement en tête, mais d'autres exemples d'obscurantisme qui existent. Et c'est vrai que être plus lucide face à notre environnement à grande échelle, qui est le ciel étoilé, ça forme l'esprit. Et un esprit qui est déjà plus lucide pour comprendre sans appel à une magie qui enlève la liberté à l'esprit finalement, eh bien ça permet que l'esprit lui-même est formé autrement et devient libéré de toute cette zone d'obscurantisme. Et donc c'est un travail important pour les amateurs, former leur environnement humain. Puis quelque chose qu'on peut dire aussi, je pense, au point de vue de la position des astronomes, alors professionnels ou amateurs, c'est par rapport, par exemple, aux journalistes scientifiques qui parlent à la télévision. Ce qui est beau, enfin, ce qui m'émeut quand j'y pense chaque fois, c'est que les journalistes scientifiques, les médiateurs, ils parlent à la lumière de projecteurs qui les éclairent. Alors que les astronomes, ils pensent et ils parlent, que ce soit dehors ou bien même dans un planétarium, de l'univers, des étoiles, à l'éclairage des étoiles. Et eux-mêmes, ils restent dans l'ombre. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important.
Voilà, chers amis, à bientôt.
Vous venez d'entendre donc ce petit mini-débat lors du petit déjeuner-débat le 9 avril dernier à la Plainvetière, lors des rencontres d'astronomie amateur européenne de Nantes, journée de Nantes, et nous prolongerons ces passionnants enregistrements que nous avons faits à l'occasion de ces journées de Nantes lors de prochaines émissions où nous parlons de la synergie instrumentation et connaissance. Vous avez là un exemple de ce riche débat autour du futur de la science, comment conduire la science et quelle place pour la science d'amateur. Et là, nous avons vu des professionnels être ou se déclarer en tout cas des amateurs, et je pense qu'ils voulaient aussi parler d'amateurs au sens d'amoureux des étoiles. Voilà, belle conclusion pour pas tout à fait de cette émission, mon cher Thierry, puisque
non,
c'est
pas tout à fait. Donc, comme d'habitude, on a légèrement en retard. Donc simplement, la prochaine émission, ce sera le lundi 5 juin, comme tous les premiers lundis de chaque mois, donc à 21h, sur ce que dit Daniel, justement la synergie entre le progrès technique et l'évolution des connaissances. Merci beaucoup, à la prochaine.